Nous sommes le mardi 30 mai 2023, il sonne 11h et nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en place pour écouter le Club La Presse sur Canal FM et ses environs, dans le mieux aussi ses environs, mais également sur les antennes des radios partenaires, Radio Lumière depuis Anéra, Radio La Paix, La Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Daoul à Bassin, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Courtoisie à Dapan, et dans le monde entier, ce sont les radios numériques comme Ebene Radio, Radio Lebene ou toutes autres applications sur lesquelles ou bien par lesquelles vous êtes en connexion avec nous dans différents pays d'Afrique, d'Europe, des Amériques, d'Asie, d'Océanie, disons de la planète Terre. À cet effet, nous disons merci et remercions encore une fois les techniciens Datevi Thomas et Gérard Kodjo Akucha. Autour de moi, ici, un confrère, Eric Hugues Pakoudjo Johnson du journal L'Union. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM, bonjour chers invités.
Justement, nous avons deux invités hein, qui ont parcouru pas moins de 420 kilomètres depuis Kara pour nous rallier. Eux, c'est Dr Mouzou Palakiem Stephen Nloale. Comment vous allez? Eh bien, Dr Mouzou Palakiem Stephen, il est le directeur de la communication et des relations publiques de l'Université de Kara. Il n'est pas seul, il est avec lui, docteur Karabou et Sassinam Franck. Bonjour docteur.
Bonjour Sass.
Vous êtes le directeur adjoint des affaires académiques et de la scolarité de l'Université de Kara.
Absolument.
Eh bien, les deux enseignants-chercheurs, docteur Mouzou et docteur Karabou, hein, sont à nos côtés pour nous parler hein, de la pédagogie hybride. Hein, ce système par lequel l'Université de Kara peut dispenser les cours aussi bien en présentiel qu'en distanciel, quelles sont les conditions de la faisabilité, donc, qu'est-ce que c'est cette pédagogie hybride, est-ce que toutes les conditions sont réunies aussi bien pour les enseignants-chercheurs de l'Université de Kara que des étudiants, qu'en est-il de la technologie, de la connectivité, du coût. Voilà ce qui va nous occuper pendant au moins 20-25 minutes. Et pour compléter le tableau, c'est notre Montchosson national, Dieudonné Korolakna. Bonjour.
Très cher Sass, bonjour. Bonjour.
Allô, auditeurs.
Bonjour auditeur de Radio Canal FM.
Merci.
Ah, tu ne réponds pas?
Je ne tomberai pas dans ton piège, mais je peux te répondre. Tu sais bien.
Merci. Eh bien, c'est une tradition. Nous débutons toujours le Club La Presse par une pensée du jour. Et aujourd'hui, le sage nous apprend que toute branche qui fleurit doit honorer les racines de l'arbre qui la porte. Encore une fois, toute branche qui fleurit doit honorer les racines de l'arbre qui la porte. Et comme vous le savez, à partir de 12h, vous pourrez entrer en ligne en composant nos deux numéros, le 22 21 33 74. Ou le 91 36 63 75. Et là, vous aurez toute la liberté de revenir sur l'un ou l'autre sujet dont nous aurons débattu en émettant vos commentaires, vos avis. Si vous êtes d'accord avec nous, vous le dites. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Ou si vous avez des questions à poser à l'une de nos personnes ressources, Dr Mouzou, Dr Karabou, ou bien nos deux confrères, Montchosso et Eric. Et c'est parti, Dr Karabou.
Oui,
dites-nous, en quelle année vous avez passé votre probatoire, votre bac 1?
Bon, une bien belle question. Courant les années 2000.
Année 2000.
Ouais, courant les années 2000.
Pour votre bac 1?
Non, le bac 1, spécifiquement en 2004.
2004. Et vous, docteur Mouzou?
Ah ben, c'est la même année, c'est en 2004.
2004. Alors, vous êtes bien jeune, hein?
Oh.
Hein? Moi, non. Mon bac 1 date de 1984. Ça fait 39 ans, si je ne m'abuse. Eric, et ton bac 1
En
1998. 98. Et notre
Montoso les années 2000 aussi.
Eh bien, nous rappelons tout ça. Hein. Ce n'est pas pour effrayer, mais c'est pour souhaiter un bon début d'examen du bac 1. À ces dizaines, centaines de milliers de jeunes filles et de jeunes garçons qui démarrent le bac 1 aujourd'hui, 30 mai, ce bac 1 qui ouvre le bal des examens de fin de l'année scolaire 2022-2023. Eric, nous souhaitons à nos jeunes fils et filles, à nos jeunes sœurs, à nos jeunes frères, bons examens.
Oui, beaucoup de courage à eux parce que c'est pas toujours évident. Vous savez que le bac 1 au Togo a été toujours une petite embûche pour beaucoup de
délais. Une sorte de filtre.
Oui, oui, oui. Et ça fait que certains même ont décroché à cause du bac 1. Mais nous souhaitons à ceux qui y passent cet examen cette année de bien se concentrer. Et ce n'est pas toujours facile, mais ils y arriveront.
Comme nous y sommes arrivés, nous n'étions pas des génies, mais nous sommes passés par là. Nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants doivent y arriver. Et après le bac 1, après s'en suivront le CEPD, le BEPC, avec la série qui sera bouclée par le bac 2. Ce sera du 26 au 30 juin prochainement. Et ces examens du bac 2 qui vont sans doute sourire à des dizaines de jeunes étudiants, dont une grande partie iront s'inscrire dans les universités publiques du Togo, soit Lomé, soit Kara. Ces deux universités publiques de Lomé et de Kara, qui font déjà face à de grandes masses d'étudiants, avec ce que cela appelle de logistique en termes du nombre de professeurs, de salles, de cours, entre autres. Le directeur adjoint des affaires académiques de l'Université de Kara en sait quelque chose. Comment faire face à ces nombres d'étudiants sans cesse en augmentation, en même temps qu'il faut dispenser des enseignements de qualité, satisfaire les volumes horaires académiques exigés et également s'assurer que chaque étudiant bénéficie de l'encadrement qu'il lui faut. Et des alternatives sont envisagées qui s'appuient sur les innovations technologiques. Et la pandémie à COVID-19 a été l'occasion pour l'Université de Kara et de Lomé d'initier des cours à distance pour pallier l'impossibilité de rassembler de grands nombres d'étudiants dans les amphithéâtres quand nous étions dans les années 2020 et 2021. Nos deux universités ont depuis peaufiné le système avec ce qu'elles appellent la pédagogie dite hybride, dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui avec nos deux invités qui nous viennent de Kara, Dr Mouzou Palakiem, rebonjour. Et Dr Karabou, rebonjour à vous aussi.
Rebonjour Sass, rebonjour Eric, rebonjour Dieudonné et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices.
Lesquels auditeurs pourront entrer en ligne bientôt à 12h pour nous compléter et chercher à en savoir davantage. Alors, première question toute naïve de ma part, la pédagogie dite hybride, qu'est-ce que c'est? Docteur Karabou. Okay.
Merci beaucoup, Sassa. Voilà. Avant même de répondre à la question, je voudrais simplement vous dire un sincère merci d'avoir pensé à l'Université de Kara, de nous avoir invités. Ça fait quand même, disons, on est un peu éloigné et c'est pas tout le temps qu'on passe à nous à Kara. Donc, merci vraiment d'avoir pensé à nous. Et faites-le le plus souvent possible. Hein. Mm-hmm. Nous en avons besoin. Et puis, venez nous visiter aussi. Kara, c'est pas aussi loin que ça. C'est quoi? Ça fait quoi? À peine 5-6 heures de route au maximum.
Et donc, si vous êtes arrivé, c'est que nous pouvons monter chez vous.
Absolument. Aussi. Voilà. Vous avez vu effectivement la combinaison. Donc, c'est merci à vous. Donc, la pédagogie, hybride. Hein. Voilà. Vous avez très bien rappelé le contexte, mais on va revenir effectivement sur le contexte d'avant Covid. Hein, mm-hmm. Le contexte d'avant Covid. Mais disons globalement que de manière un peu ramassée, la pédagogie hybride, c'est cette pédagogie-là qui allie la formation en présentiel et la formation en distanciel. Mmh. Donc, on fait un mixage entre les deux types de formation. On fait passer les cours, une partie des cours en présentiel et une partie en distanciel. En distanciel, ça veut dire les étudiants, ils sont chez eux, l'enseignant, il est chez lui. Et donc, à travers une plateforme, nous en reviendrons là-dessus sur la plateforme et le professeur, il fait passer le message. Mmh. Donc, voilà. Donc, globalement, la pédagogie hybride, c'est une partie des cours en présentiel et l'autre partie en distanciel.
Eh bien, qu'est-ce qui justifie l'introduction de cette pédagogie hybride dans vos systèmes d'enseignement, aussi bien à Lomé que surtout à Kara?
D'accord.
Docteur Mouzou.
Oui, merci beaucoup, Sass. Et je voudrais aussi réitérer nos remerciements à Radio Canal FM et également au directeur de publication ici présent, à tous les auditeurs. Et il faut dire que la pédagogie hybride tire sa source du Conseil présidentiel pour l'enseignement sur l'avenir de l'enseignement supérieur, tenu du 28 au 30 novembre 2013 à Lomé. Et donc, lors de ce Conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche au Togo, il y a eu un diagnostic qui a été fait du système universitaire togolais. Et donc, dans ce diagnostic, il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été relevés et il fallait corriger ça progressivement. Alors, au rang de, donc, au total, c'est 12 points faibles qui ont été énumérés, mais je vais rappeler très rapidement quelques quatre éléments qui ont un rapport avec la pédagogie hybride. Mmh. Le premier que je vais rappeler, c'est qu'il a été diagnostiqué que les universités, ou du moins sur l'université togolaise, est tournée vers la culture de masse et inadaptée aux mutations en cours à l'échelle planétaire. Mmh. Secondo, les missions des universités togolaises étaient en déphasage avec les réalités du terrain. Mmh. Et également, on constatait que des effectifs d'étudiants en pleine explosion étaient constatés et répartis de façon disproportionnée dans des filières de formation et caractérisés par des disparités liées au genre. Et surtout, un autre point, c'est que même si on notait la massification, c'est que les ressources budgétaires allouées aux universités publiques du Togo étaient en deçà par rapport aux besoins réels. Alors, par rapport, donc, pour faire face à tout cela, il fallait envisager une nouvelle vision de l'enseignement supérieur et de la recherche au Togo. C'est ce qui a fait que, en 2017, une loi a été votée, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État pour définir le nouveau cadre de fonctionnement donc des universités au Togo. C'est la loi numéro 2017-00005 du 19 juin 2017 d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Quand vous prenez cette loi, notamment au titre premier de l'enseignement supérieur, chapitre premier, section première, article 6, il est dit que l'enseignement supérieur se fixe comme objectif dans le domaine académique de garantir une formation de haut niveau, tant générale que spécialisée, aussi bien fondamentale, théorique que pratique, en présentiel et à distance.
Déjà en 2017.
Et donc, dans sa section, dans la section 2, donc des principes fondamentaux de l'enseignement supérieur et de la recherche, article 12, il est précisé que, je cite, « l'enseignement supérieur peut recourir à toutes les modalités de formation, notamment en présentiel, à distance, en alternance ou par des dispositifs hybrides alliant cours en présentiel et sessions à distance ». Fait de citation. Donc, quand vous prenez cela, vous pouvez, c'est disponible donc au journal officiel de la République togolaise. Et quand vous continuez dans la section 3, et article 15, section 6 également, article 33 et 34, vous allez voir d'autres dispositions qui, en fait, orientent un peu les universités dans le choix, n'est-ce pas, de la pédagogie hybride. Donc, ceci étant, cela veut dire que, à partir de 2017 déjà, les directives ont été déjà données par rapport à ce que les universités peuvent faire pour juguler, n'est-ce pas, cette crise liée à la massification. Mm-hmm. Parce que quand on n'a pas assez de ressources pour accueillir, ou lorsque la capacité d'accueil est très faible pour accueillir les étudiants, il faut alors procéder à un autre système permettant d'assurer les cours en présentiel. Et là, pendant que certains sont en présentiel, que d'autres puissent suivre en distanciel, et vice-versa, pour qu'on puisse vite avancer, vite finir l'année, mais qu'ils aient aussi une formation de qualité.
Voilà, donc un diagnostic établi par le Conseil présidentiel pour l'enseignement supérieur depuis 2013. Et les orientations étaient fixées par la loi qui date déjà de l'année 2017. Alors maintenant, pour la mise en œuvre de toutes ces directives, nous en venons maintenant à ce que vous faites. Mais avant de nous en parler, nous venons de réécouter d'abord les orientations données par la loi. Et maintenant, qu'en est-il des conditions techniques ou bien technologiques? Docteur Karabou, est-ce que à l'université de Kara, vous avez rassemblé toutes les conditions pour mettre en œuvre ou pour mettre en musique ce que votre collègue vient de nous citer?
Absolument, absolument. L'université de Kara, un effort louable, un effort énorme se fait effectivement pour pouvoir déployer ce dispositif qu'est le déroulement des cours hybrides à l'université de Kara. Mon collègue l'a rappelé, le directeur Mouzo l'a rappelé tout à l'heure, le contexte dans lequel effectivement les cours hybrides sont nés, d'abord en passant par les dispositions réglementaires qu'il a citées, et puis sur les pratiques elles-mêmes sur le terrain. Alors, je vais juste ajouter un petit élément en attendant. Alors, c'est-à-dire que, tel qu'il l'a dit, la question de la massification, quand vous prenez un peu le nombre d'étudiants qui rentrent chaque année, l'université de Kara a ouvert ses portes en 2004. Aujourd'hui, nous sommes en 2023 et en 2004, on avait démarré avec 1500 étudiants environ.
1537 étudiants.
Plus exactement, 1537. Aujourd'hui, nous sommes autour de 22 000 étudiants, Monsieur Sass, 22 000 étudiants. Et donc, dans ce contexte...
Alors que vous étiez pendant longtemps en location au sein de l'ENI.
Voilà, c'est ça. Vous comprenez,
nous y sommes toujours.
Vous y êtes toujours.
L'université, bon, Dieu merci, hein. Vraiment, bon, les conditions, c'est en train d'avancer. Alors, donc, je continue en disant ceci. Donc, 22 000 étudiants, pour 22 000 étudiants aujourd'hui, chaque année, vous avez 6 000 nouveaux étudiants qui rentrent. Et donc, ça veut dire quoi? Vous avez une contrainte budgétaire. Vous ne pouvez pas construire des places assises pour 6 000 personnes chaque année. C'est impossible. C'est difficile. Et même si vous aviez effectivement ces moyens financiers pour le construire, l'espace, à un moment donné, il va y en manquer quand même de l'espace aussi. Donc, il fallait quand même effectivement... Donc, vous voyez que depuis 2017... les tests ont déjà prévu effectivement tout ce qu'il y a comme cours hybride, etc. Donc aujourd'hui, en termes de technique pour pouvoir le faire, bon voilà, mon collègue va le dire tout à l'heure, l'université de Kara, effectivement, Covid a été un élément catalyseur, n'a été qu'un élément catalyseur. En fait, Covid ne détermine pas l'application des cours hybrides à l'université de Kara, loin de là, tel que mon collègue l'a dit avec les tests à l'appui. Donc, Covid n'a été qu'un élément catalyseur. Et depuis, effectivement, nous avons démarré petitement, mais aujourd'hui, le système est bien huilé. Bon, avec quelques petites difficultés, il ne faut pas le dire.
Et je suppose, je présume que le système doit marcher quand il y a une bonne connectivité dans le pays, à Kara. Est-ce que c'est le cas, docteur Mouzou?
Oui, merci Sass pour cette question. Il faut encore revenir au texte. Je voudrais rappeler une disposition toujours de la loi. La section 3 de l'élaboration de la mise en œuvre du suivi de la politique de l'enseignement supérieur, et au niveau de l'article 15, dit ceci. L'État garantit la cohérence de l'organisation de l'enseignement supérieur dans le cadre de la planification nationale et régionale. À ce titre, il favorise le développement et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans la formation supérieure et dans la recherche. Cela veut dire que la question de la connexion Internet est une question d'ordre national. C'est l'État qui garantit cela et maintenant les institutions en font usage. Alors, ça veut dire que le débit que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas l'université qui produit ce débit. L'université profite de ce qui existe. Mais il faut quand même rappeler certaines choses qui ont été faites en amont. La loi a été prise en 2000. La loi a été votée et promulguée en 2017. En 2018, on a lancé le programme, le projet Galilée, qui a donc permis aux étudiants d'avoir accès à des ordinateurs. C'est vrai que quand on prend ce projet dans sa situation actuelle, ça n'a pas permis véritablement à tous les étudiants d'accéder effectivement aux ordinateurs. Mais ça a été quand même un des chemins tracés par l'État pour que les étudiants puissent accéder donc à ces ressources. Deux, il y a eu le projet Wi-Fi Campus qui a permis donc d'installer des bornes de connexion à Internet sur les deux campus, enfin du moins dans les deux universités publiques et également dans les CHU. Et donc tout récemment, donc en 2020, l'État a entamé un nouveau projet dénommé Université sans les murs pour appuyer donc les universités publiques. Et donc en plus même de cela, le gouvernement a commencé par mettre dans le budget directement. Donc il faut dire qu'il y a eu un appui budgétaire de soutien à la pédagogie numérique à partir de 2020. Et donc c'est 200 millions de francs CFA qui sont donc budgétisés par le gouvernement pour appuyer les universités publiques par rapport à la pédagogie numérique. Mm-hmm. Donc les 200 millions de francs CFA sont donc, disons, gérés directement par le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc aujourd'hui, en termes de dispositif, on peut dire que, après avoir suivi cela, on peut donc valablement dire qu'il y a des acquis. Mais est-ce que ces acquis sont suffisants?
Oui.
Là-dessus,
oui.
Je vais dire non. Mm-hmm. Ce n'est pas suffisant. Il y a encore des efforts à fournir pour que les étudiants, parce que les étudiants ont des bourses limitées. Et c'est pour cela que le projet Université sans les murs a été pensé. Ce projet veut que dans un rayon, et donc le rayon c'est de 8 à 15 kilomètres, si un étudiant est dans ce rayon, qu'il puisse accéder gratuitement à la connexion et donc pouvoir suivre les cours. Donc cela va nécessiter que les comptes leur soient créés à chacun des étudiants, mm-hmm. qu'un certain nombre de temps leur soit également consacré pour des recherches en ligne et pour la connectivité. Mm-hmm. Ce projet est en cours et n'est pas encore arrivé à sa phase opérationnelle. Mm-hmm. Merci pour le mot.
Oui.
Donc voilà un peu ce qui est fait déjà pour soutenir. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? L'étudiant achète lui-même sa connexion Internet. L'étudiant mm-hmm. se connecte donc à la plateforme.
Moi, Chosson vous regarde. Hein?
Oui, non, qui nous
regarde. Il en a été victime.
Oui, c'est la réalité. On va pas dire autre chose.
Moi-même, je le regarde avec beaucoup d'attention.
C'est la réalité. Et c'est cette réalité. Oui. Nous disons encore que nous pensons qu'on peut encore faire plus.
Oui.
Même si. Et pour le moment, le fait que l'étudiant puisse consentir donc ce sacrifice pour accéder aux ressources sur la plateforme Moodle, oui. c'est déjà quelque chose pour qu'il puisse aussi lui apprendre un peu de ces technologies de l'information et de la communication, mm-hmm. mais aussi pouvoir se préparer pour entrer dans la vie donc professionnelle, mm-hmm. parce que aujourd'hui, il n'y a plus de structure qui accueille des diplômés qui ne maîtrisent pas du tout l'éthique.
Merci. Alors, oui, Montoso.
Docteur Mouzou, merci pour ce développement très éloquent. J'allais même dire scientifique. Et j'apprécie. Mais je suis resté un peu quand même sur ma soif.
D'accord.
Il y a des acquis.
Oui.
Ça, c'est tout à fait vrai. C'est indéniable. Mais c'est des acquis avec leurs hauts et leurs bas.
Absolument.
Et vous l'avez même effleuré. Quand on prend le projet Galilée, mmh. ne serait-ce que le projet Galilée, mmh. Nous avons entendu, nous avons écouté la rage des étudiants, leur soif, leur mmh. faim face à ce projet, etc. Mmh. Mais alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des chiffres clairs, des statistiques qui encouragent mmh. à aller directement toujours dans le système hybride à fond, ou peut-être des chiffres qui permettent peut-être de faire une petite parenthèse et de voir, parce que vous l'avez dit, il y a la part de l'État, l'État garantit, etc. Mm-hmm. Mais il y a forcément la part des universités, malgré la dotation, etc. etc. Est-ce qu'il y a des chiffres, il y a des bilans clairs qui encouragent à aller depuis 2021? Oui. Mais vous pouvez nous dire.
On va donner la parole à Dr Karabou de répondre à cela. Docteur?
Oui, merci beaucoup. Effectivement, le petit nom que j'ai oublié.
Dieu donné,
c'est pas grave. Dieu donné, voilà, là, je m'empresse de noter pour ne plus l'oublier. Dieu donné, effectivement, qui veut voir un peu s'il y a des chiffres sur les cours hybrides et donc qui pourraient nous encourager à toujours aller dans ce sens. Mm-hmm. Très simplement, il faut savoir que, bien entendu, hein, voilà, on est des planificateurs, on ne va pas faire des choses à l'aveugle. Hein. Il faut effectivement partir sur des bases assez scientifiques pour raisonner. Depuis que les cours hybrides ont démarré, il y a des dispositifs à l'université de Kara qui nous permettent de faire le suivi et de faire l'évaluation du dispositif pour voir si effectivement est-ce que nous pouvons continuer dans ce sens-là ou bien quels sont les ajustements nécessaires à faire pour pouvoir continuer, etc. Mm-hmm. Et donc à l'université de Kara, par exemple, nous avons le service central d'assurance qualité qui permet effectivement, qui essaie de voir un peu la qualité au niveau institutionnel. Et donc, parlant de la qualité au niveau institutionnel, nous parlons aussi de la qualité au niveau pédagogique. Et donc, ils font des évaluations, des enseignements, d'abord des enseignements en présentiel d'un côté et les enseignements en ligne d'un côté. Et de ce côté-là, je peux vous rassurer que les résultats sont positifs. Mais attention, on va nuancer. Nous ne disons pas que, quand nous disons que les résultats sont positifs, nous ne disons pas qu'il n'y a pas de difficultés. Mm-hmm. Il y a des difficultés. D'accord? Mais les résultats, globalement, sont positifs.
À quel pourcentage, pour que nous puissions bien nous situer?
Oui.
Docteur Mouzou?
Oui. Merci beaucoup. Donc, moi, je tiens avec moi. Et puis, Dieu donné est avec moi. Et puis, voilà, le rapport détaillé d'évaluation des enseignements par les étudiants.
Voilà.
Donc, c'est une évaluation qui a été faite par les étudiants eux-mêmes. Mm-hmm. Donc, pour apprécier la pédagogie hybride à l'université de Kara. À l'université de Kara, je précise encore une fois. Alors, et avant donc de donner les chiffres de ce rapport, je voudrais dire que courant les 4 dernières semaines, sur la plateforme Moodle de l'université de Kara, c'est 12 000 étudiants qui se sont connectés pour suivre des cours. Mais nous avons 22 000
étudiants. 12 000 sur 22 000 quand même.
12 000 sur 22 000 étudiants. Mais tout de suite, si vous regardez...
Les 22 000 ne se connectent pas simultanément, ils n'ont pas cours au même moment.
Merci bien beaucoup. Sûr, bien sûr. Si tout de suite, vous regardez 12 000 et 22 000, vous allez dire, ah ben, donc voilà, c'est ce qu'on...
Il y a un gap de 10 000 quand même.
Ah ben, bien sûr. Mais comment est-ce que ça se passe? À l'université de Kara, nous programmons, donc nous n'avons pas une programmation statique de bout en bout, c'est-à-dire du début du semestre jusqu'à la fin. Les cours sont faits l'un après l'autre, donc de manière perlée. Et donc, généralement, donc pendant que certains sont programmés pour suivre les cours en distanciel, en ligne, à la maison, donc d'autres suivent des cours en présentiel. Donc, ça veut dire que courant cette période, il y a des étudiants, donc il y a environ 9 à 10 000 qui suivaient des cours donc en présentiel pendant que d'autres suivaient en distanciel. Alors, je prends ce rapport qui a été fait donc de la satisfaction des étudiants par rapport aux cours en ligne à l'université de Kara. Et donc ce rapport détaille même par unité d'enseignement ce que les étudiants pensent. Et donc je prends par exemple à tout hasard le cours de métier et spécialisation en horticulture. Quelle est votre appréciation générale du suivi? Du cours suivi, 76% disent être satisfaits. Quelle est votre appréciation du contenu de la formation? 75% disent être satisfaits. Quelle est votre appréciation du déroulement même du cours? 76,79% disent être satisfaits. Quelle est votre appréciation de la documentation fournie par l'enseignant? 73,21% disent être satisfaits. Quelle est votre appréciation du cadre de l'enseignement? 73 disent être satisfaits. quelle est votre appréciation des TD ou TP, généralement programmés en présentiel? Donc, 75% sont satisfaits. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint les 100% de satisfaction, mais la majeure partie des étudiants de l'Université de Kara sont satisfaits de la pédagogie hybride telle qu'elle est implémentée à l'Université de Kara. Mais, dans la conclusion donc, de ce rapport, justement, tous les étudiants sont unanimes pour dire qu'ils ont besoin d'un appui logistique et de connexion Internet.
Voilà, c'est important ça.
D'accord. Voilà. Donc, tous sont unanimes là-dessus pour dire qu'ils veulent que, qu'on mette à leur disposition donc, soit des ordinateurs, et la plupart ont coché même devant tablette. La plupart cochent plutôt au niveau de tablette, parce qu'on a mis ordinateur, tablette, Android. D'accord. Plusieurs cochent plutôt pour tablette.
Alors, je peux poser ma question. Oui, là, vous êtes en train de nous émerveiller à travers votre rapport, mais il y a quand même vos collègues qui demandent de supprimer carrément les cours en distanciel. Je veux parler du syndicat des enseignants du supérieur. Et le secrétaire général, monsieur Moussi, qui est passé par ici pour nous dire clairement que eux, dans leurs revendications, ils demandent à ce qu'on supprime les cours en distanciel parce que cela ne profite pas aux étudiants. Il a donné un exemple. Pendant que le professeur est en train de faire le cours, les étudiants sont sur la plateforme mais ne suivent pas les cours. Est-ce que cela ne remet pas en cause tout ce que vous venez de nous dire?
D'accord.
Docteur Karabou?
Oui, voilà. Merci pour la question, hein, monsieur Eric. Voilà, très simplement, moi j'allais simplement dire que nous sommes là pour parler de la pédagogie hybride à l'Université de Kara et telle que cette pédagogie-là s'implémente chez nous.
Qui voit Kara?
Et oui, à Kara, à l'Université de Kara, je veux dire. Et telle que cette pédagogie hybride s'implémente à l'Université de Kara. Et mon collègue vient de donner un peu, quand nous avons fait l'évaluation, les chiffres, ce qu'il en est. Il a relevé, il a nuancé également en relevant un peu les difficultés qui existent et puis ce qu'on peut faire pour améliorer le système. Vous voyez un peu. Donc, bon, nous, c'est ce que nous faisons à l'Université de Kara.
Alors, est-ce qu'il y a un système qui vous permet de faire le suivi pour savoir si les étudiants, depuis la maison, suivent effectivement le cours qui est dispensé en distanciel?
Et il faut dire qu'il y a plusieurs systèmes de suivi. On ne va pas donc auprès des étudiants à domicile pour voir ce qu'ils disent, pour voir ce qu'ils font. Mais vous allez constater que justement eux-mêmes, quand il s'agit d'évaluer le déroulement même du cours, donc selon les cours, il y a des cours pour lesquels c'est seulement 46% de satisfaction. Et il y a un cours pour lequel c'est 37% de satisfaction. Donc ça veut dire que quelque part, il y a le rôle des enseignants, il y a le rôle des étudiants et il y a ce que maintenant l'institution peut faire. Donc, dans la chose, quand on prend la pédagogie hybride, il y a différents acteurs et il faut que chaque acteur joue son rôle pleinement pour que les autres acteurs qui bénéficient du système tel qu'il est instauré puissent effectivement tirer profit. Donc, pour revenir à votre question. Est-ce que...
À ma question ou à sa question?
Non, à sa question. Bon, je pourrais aussi revenir à la voix, à sa question d'abord. Donc, est-ce qu'il y a un dispositif pour savoir si les étudiants qui se connectent suivent effectivement les cours? Vous savez, quand vous servez à manger, c'est lorsque on évalue à la fin pour savoir s'il reste ou non. C'est en ce moment-là que vous pouvez véritablement dire si on a aimé le plat ou non. Donc, les étudiants, c'est plutôt lors des évaluations qu'on sait s'ils ont véritablement suivi ou non. Mais il faut aussi dire une chose. Souvent, j'entends, et il y a certains donc, dans notre environnement qui disent, bah, écoutez, les étudiants, ils ne se connectent pas, ou alors il y en a qui se connectent, ils ne suivent pas. Chers amis, même en présentiel, quand les étudiants viennent dans les amphis, est-ce qu'ils suivent tous? Non. Il y en a qui viennent, ils sont là, ils sont sur leur smartphone. Qu'est-ce que vous allez faire contre eux? Lorsque vous avez des effectifs réduits, vous pouvez agir. Mais lorsque vous avez des effectifs pléthoriques, qu'est-ce que vous pouvez faire contre tous ces gens-là? Et il y en a qui disent non, en ligne, ils ne sont pas tous connectés. Là aussi, je suis d'accord. Mais je pose encore une question. En présentiel, est-ce que tous les étudiants viennent poursuivre les cours? Il y en a qui, pendant qu'on dit que l'enseignant fait son cours, le gars, il est en train de faire des millions. Il y en a qui partent au marché pour aider leur maman à vendre. Donc, est-ce que, là aussi, on va dire, donc, parce qu'ils ne sont pas tous connectés en ligne systématiquement, il faut arrêter.
Et non. Dans les salles de classe, on en connaît qui dorment, d'autres encore qui bavardent, qui font autre chose. Ça, c'est la réalité.
Docteur, cher Sass, une seconde. Docteur, mais dans la droite ligne de l'une des questions de mon confrère Eric, alors on a les chiffres. Et on a des chiffres très éloquents du niveau de satisfaction des étudiants. Mmh. Est-ce qu'on a des chiffres du niveau de satisfaction des enseignants?
Mmh. Oui.
Absolument. À combien de pourcents?
Là, je ne l'ai pas ici, oui. Mais il y a aussi le rapport par lequel on a demandé aux enseignants de se prononcer. Malheureusement, à l'université de Kara, 50% seulement des enseignants se sont prononcés.
Ok.
D'accord.
50%
ça peut vouloir dire beaucoup de choses.
Et comment expliquez-vous cela, docteur Mouzou?
Non, mais nous, on constate. Mais est-ce qu'on va chercher à expliquer? Non, parce que quand l'occasion vous est donnée de dire ce que vous pensez d'un système dans lequel vous êtes et que vous ne le dites pas, c'est que vous cautionnez tout simplement.
Mais après, moi, je vais
qui ne dit rien consent.
Après, permettez, oui, je vais juste ajouter un élément très rapidement.
Oui.
Mais ce matin, nous sommes ici. Mm-hmm. Nous sommes au studio avec vous. Nous ne sommes pas à Kara. Et il se peut aussi qu'au moment où on est en train d'administrer les questionnaires, qu'il y ait des collègues qui sont en mission. Mmh. Voyez-vous, donc il y a d'autres qui sont en mission. Donc on ne peut pas avoir 100% non plus, d'accord, de répondants. Donc ça, c'est un fait. Voilà. Donc, mais les évaluations sont systématiques à l'université de Kara, via un dispositif bien huilé pour voir est-ce que ce que nous avons mis en place, est-ce que ça marche ou pas. Si ça marche et s'il y a des difficultés, comment il faut corriger cette difficulté-là.
Merci.
La qualité est de mise à l'université de Kara.
Ce sujet nous prend déjà jusqu'à 38 minutes. Nous allons y encore y rester 3-4 minutes. Mais dites-nous, docteur Karabou, bien de docteur Mousse, selon, quelles sont les filières qui sont vraiment concernées par la pédagogie hybride?
Bon, disons que c'est toutes les filières concernées. Seulement que ce n'est pas pratiqué de la même manière d'un lot de filières à un autre lot. En fait, nous distinguons les filières classiques des filières professionnelles. Donc, pour toutes les filières classiques, le pourcentage est beaucoup plus élevé. Nous appliquons 60% en présentiel et 40% en distanciel pour ceux qui arrivent. Donc, ceux qui sont au semestre 2, au semestre 1, c'est 80% en distanciel et 20% en présentiel et 20% en distanciel parce qu'ils viennent d'arriver. Donc, il faut d'abord les prendre en présentiel et ensuite, il y a l'équipe du service de l'innovation pédagogique et des formations ouvertes et à distance qui passe pour leur indiquer comment se connecter où aller pour créer leur compte et tout cela avant de commencer. Et donc, pour les autres niveaux qui suivent, c'est 60%, n'est-ce pas, du distanciel et 40% plutôt. La tendance est inversée. Merci, ouais. Voilà, il y a plus du distanciel et donc moins de présentiel. Mais pour les filières professionnelles, c'est 80% en présentiel et 20% en distanciel. C'est systématique du semestre 1 jusqu'au semestre 6.
Merci. Je rappelle que d'après la documentation que j'ai pu consulter auprès de vous, oui. L'université de Kara a émis un manuel de procédure, Moodle. Oui. Ensuite, vous avez élaboré un guide mobile, aussi bien pour les apprenants que pour les enseignants. Donc, c'est des choses qu'on peut consulter. Merci, mais il faut quand même qu'on avance sur d'autres sujets. Mais quand même une question avec vous.
Monsieur Sass, si vous permettez, je fais juste un petit élément. Je voudrais juste préciser ceci. À l'université de Kara, comme mon collègue vient de le dire, le volume horaire alloué à une unité d'enseignement, ce volume horaire-là, il est totalement épuisé par les enseignants. Je veux dire, si une unité d'enseignement fait 3 crédits, ce qui fait 30 heures de cours pour nous, vous faites les 30 heures. Nous, comme il a dit, si c'est 80% en présentiel et 20% en ligne, donc on fait 80% des 30 heures que vous faites en présentiel et 20% en ligne. Et on fait le suivi pour voir si effectivement vous avez épuisé ces 30 heures de cours que vous avez effectivement à faire, une partie en présentiel et une partie en ligne. Vous avez les décanats qui font le premier checking. Vous avez après le service assurance qualité qui est là et vous avez la DAS aussi qui est là, qui fait ce team avant programmation des évaluations.
Merci. Dernière question à l'un ou à l'autre. Est-ce que vous êtes en relation, l'Université de Kara avec l'Université de Lomé, pour comparaison d'expérience, échanger de ceci, de cela?
Bon, il faut dire qu'on se retrouve. On se retrouve. Il y a des plateformes qui nous permettent de nous retrouver. Quand je parle, par exemple, du projet Université sans les murs, il y a donc une coordination nationale assurée par Dr Horacio Kouadjovi.
Il est chez vous bien,
il est à l'Université de Lomé.
De Lomé.
Voilà, ah, okay. Voilà. Et donc, il y a un coordonnateur, il y a un point focal à l'Université de Kara, et c'est lui qui vous parle, un point focal à l'Université donc, de Lomé. Et donc, nous nous retrouvons pour échanger donc, sur ce qu'il faut faire pour améliorer en fait, les choses. Il y a également... Et au niveau des affaires académiques, peut-être que
justement, j'allais le dire, au niveau des affaires académiques de la scolarité, au niveau des DAS, des deux DAS, des deux universités, nous échangeons entre nous, entre des collègues, nous échangeons pour essayer d'apprendre des bonnes pratiques, de partager les bonnes pratiques, comme on le dit, et de voir qu'est-ce qu'il faut améliorer d'un côté et autre. Donc, il y a des échanges fondamentaux.
Merci. Mettons trois points de suspension. Voilà. Quitte à y revenir, si les auditeurs le souhaitent, ou même les collègues ici, le temps quand même que nous abordions d'autres sujets, notamment, Eric, le prix littéraire professeur Comlan, Messan Nouboubo, dont nous avons parlé il y a quelques semaines, et sur lequel l'Union, ton journal revient, parce que on vient d'avoir une idée du jury qui va devoir primer les lauréats.
Oui, ce jury est composé d'un président, d'un vice-président, d'un rapporteur. Le président, c'est l'intimé Kofi Mollet. Ah oui, hein, vous connaissez.
Le monde
universitaire. Oui, justement. Et donc, il est assisté de Nourdine Akrondo et le rapporteur est Monsieur Solé Todji, qui sont tous à l'université de Lomé. Et donc, ce prix sera décerné le 24 juin prochain. Et ce prix ne concerne que le genre théâtre pour cette année 2023. Et donc, l'année prochaine, ce sera peut-être la poésie, selon les informations que nous avons. Et donc, je crois que les œuvres ont été déjà envoyées, puisque la date limite, c'est le 25 mars dernier.
Oui.
Donc, et actuellement, ils sont en train déjà de procéder à la lecture et comme ça, après le jury.
Merci. Bonne chance décider aux 12 candidatures pour celle au singulier ou au pluriel que le jury va primer le 24 juin prochain. Nous en parlerons. Alors, du théâtre au cinéma, le pas est vite franchi. Et c'est toujours l'Union qui nous parle d'une piste de financement des films pour le Togo.
Oui, au fait, vous savez que le Festival international de Cannes vient de finir et que la lauréate est la Française Justine Triet. Et donc, après son sacre, elle a prononcé quand même un discours au cours duquel... Elle s'est vraiment attaquée à son régime, enfin, au pouvoir français, qui parle des problèmes de limitation d'âge pour les retraites. Et elle a profité quand même pour toucher un peu la culture, en parlant de la marchandisation de la culture en France. Mais derrière ça, elle a été applaudie. Toutefois, elle a aussi été critiquée. Mm-hmm. Elle a été aussi critiquée du fait que c'est grâce aux subventions qu'elle a réussi à avoir ce prix-là. Oui. Et donc, nous sommes dit, est-ce que nous ne pouvons pas utiliser la même procédure pour financer le cinéma au Togo? Vous savez que l'aide de l'État à la culture, le fonds d'aide à la culture est supprimé. Et maintenant, la nouvelle procédure, c'est que le cinéma est mis carrément de côté. Et donc, comment faire pour trouver de l'argent pour financer le cinéma dans notre pays? Et donc, on s'est dit, en France, ce qui se passe, c'est qu'il y a une taxe sur les prix des salles de cinéma. Donc, quand vous payez un ticket pour aller suivre un film, on prélève quelque chose et c'est ça qui sert à financer le cinéma français. Mais chez nous, oui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de salles, mais nous sommes en train de nous demander comment faire. S'il n'y a pas assez de salles, il y a peut-être une ou deux salles aujourd'hui, comment financer ce théâtre et ce cinéma togolais là?
Non, pas beaucoup de salles, mais nous avons beaucoup de barres d'auberges. On peut également innover dans ce sens.
Oui, là, c'est le but au droit. Juste un petit rectificatif. En fait, le fonds d'aide à la culture n'est pas supprimé. Il a changé de
dénomination.
Il est devenu le Fonds national de développement culturel, si je ne me trompe. Et en fait, le cinéma n'est plus totalement pris en compte parce que le cinéma fait, en tout cas, est devenu toute une entité à part. Parce que, vous savez, le fonds pour tourner un seul film peut engouffrer carrément le fonds d'aide à la culture. Mm-hmm. Mais c'est là le problème. Le cinéma est très, très budgétivore. Et en ça, je crois, le gouvernement, avec les acteurs du cinéma, fait un travail qui a abouti justement à la création carrément d'une autre entité qui couvre donc les fonds qui doivent être désormais alloués.
Merci.
Nous passons du moment où, le fonds d'aide à la culture, oui, concernait également le cinéma. Oui. Si on ne le supprimait pas, on ne pourra pas mettre en place une autre procédure pour financer la culture à part et le cinéma à part.
Bon. Je retiens que le cinéma, tout comme toutes nos formes de culture, ont besoin de financement, de subventions de l'État. Il est tout à fait normal que ceux qui ont bénéficié de cette subvention soient les premiers à s'en plaindre que ce n'est pas assez. C'est ça l'homme. Il ne sera jamais satisfait, même si vous lui promettez, si vous lui offrez tout ce que vous avez.
On attend également le fonds d'appui à la presse.
Mais avant, sur un autre sujet, sur le qui fait polémique et sur lequel le Togo est interpellé souvent, pour ne pas dire on nous tape sur le doigt, c'est la surpopulation dans nos prisons. Et aujourd'hui, je lis à la page 3 de l'Union cet article intitulé « Surpopulation carcérale ». C'est la Commission nationale des droits de l'homme qui accuse ouvertement le parquet général de la Cour d'appel de violer le droit à la liberté d'office. Et Eric, l'article dit que la justice togolaise contribue aussi à la surpopulation carcérale avec des détentions préventives excessivement trop longues, des personnes détenues au-delà de la durée de leur peine, bref, des oubliés de la prison. Et quand ça vient du président de la CNDH, c'est une sorte de gros pavé dans la mare.
Ah oui, effectivement. Ça, vous savez, il y a des gens qui sont incarcérés et on dit qu'ils sont en détention préventive. Et ça dure combien de temps? Alors, c'est le ministère public qui renouvelle, sinon je veux dire le procureur général qui renouvelle cette détention en disant que par rapport à ce dossier, il faut que l'individu reste là, il n'est pas jugé, il est là jusqu'à ce qu'on finisse les recoupements autour de son affaire. Mais là, ce qui se passe, c'est que il y a une loi qui encadre également cette détention préventive. Et lorsque vous violez cette loi, je crois que c'est l'article 167 du code pénal, mais lorsque vous violez cette loi, le procureur général est en droit de demander la liberté d'office de ce prévenu. Mm-hmm. Malheureusement, ce qui se passe au niveau de la cour d'appel, c'est que le procureur général, ordonne la libération d'office, mais le parquet général refuse de libérer ces individus.
Et pourquoi ?
Ah mais, on ne sait pas. On ne sait pas, mais il y a deux cas spécifiques que la CNDH a soulevé pour faire sa conclusion sur le fait que la cour d'appel contribue énormément à la surpopulation carcérale. Parce que quand les gens ne sont pas jugés, ils sont là, ils ne savent même pas à quel moment ils seront jugés, ils ne savent pas à quel sein ils seront voués, etc. Donc, il y a une surpopulation, tout simplement à cause de ces faits-là. Et donc, la CNDH a pris le cas d'un monsieur qu'elle a bien appelé BPA. Et il s'agit d'un Nigérian qui a été arrêté dans une affaire aussi rocambolesque que ce qui se passe après. Et donc, la détention préventive de gars a excédé le délai requis et le procureur général a ordonné la libération de ce monsieur. Mais cela n'a pas été fait. Par contre, on a gardé le monsieur. La CNDH a fait des démarches au niveau de la cour d'appel pour que ce monsieur soit libéré, mais ça n'a pas été le cas. Finalement, on prend ce dossier-là et on va encore juger ce monsieur pour lui donner 10 ans de prison. Alors, la CNDH se pose des questions. Pourquoi le procureur général a ordonné la libération d'office, mais on ne réagit pas positivement, mais on reprend le même dossier pour juger ce même cas. Le deuxième cas est également la même chose pour quelqu'un. Oui, on sait que quand on est impliqué dans une affaire de drogue, c'est extrêmement grave parce que on a retrouvé 0,5 kg de drogue, de la méthamphétamine auprès de ce monsieur-là, et donc il a été arrêté. Et jusqu'à ce qu'on dise finalement que oui, il est coupable, mais on a déjà violé ses droits.
Je ne me retrouve pas très bien dans les arguties juridiques, mais ce qui est essentiel, et c'est ça qui doit interpeller, quand la CNDH et son président font le constat que la justice, notre justice contribue elle-même à la surpopulation de nos prisons, d'autant plus que l'actuel président de la CNDH est un ancien président de la cour d'appel. Donc, il sait ce qu'il dit. Le juge s'en vit.
Mais complètement. Mais il connaît bien la justice, dont il est un acteur très, très important. Même si aujourd'hui, il est beaucoup plus du côté des droits humains, du côté des droits de l'homme. Mais ce que je veux relever tout d'abord, c'est que qui dit que les institutions de la République au Togo ne fonctionnent pas ? Pavé dans la mare, dis-tu ? Mais avant lui, mais il y a quelques mois, sinon peut-être plus d'un an, le président de la Cour suprême avait vraiment lancé un pavé plus gros, mais en interpellant les juges directement dans les questions foncières, etc. Mais maintenant, le problème est que les constats ne sont pas suivis des faits. C'est tout le problème. Mais quand une institution de la taille, une institution républicaine de la taille, CNDH, de la taille, Cour suprême. On peut même parler rapport Covid, etc. Quand des institutions de cette taille font des constats, posent des problèmes, il faut justement que tout ça soit suivi des faits. Mais le constat qui reste amer après le constat de ces présidents d'institutions, c'est que malheureusement, et ça, c'est le travail qu'il faut que notre justice fasse à un moment donné. Parce que pour qu'une démocratie fonctionne totalement, pour qu'une démocratie soit applaudie et saluée sur le plan international, il faut effectivement que tout roule, que toute la machine soit huilée. Mais la CNDH a fait sa part, vient de faire sa part. Mais maintenant, il faut que la justice, en tant qu'entité autonome, puisse montrer qu'elle est vraiment indépendante.
C'est important ce que dit Montessor. Aujourd'hui, voilà. La Cour, la CNDH, crie son ras-le-bol pour la surpopulation carcérale, dont l'une des causes est due à notre justice, notamment le parquet général. Hier, c'était le président de la Cour suprême qui s'en prenait aux dérives des juges dans les interminables affaires du foncier. Et il y a quelques heures, c'est la Cour des comptes qui a publié son fameux rapport sur la gestion de la COVID en 2020. Même si tout cela n'est pas encore suivi d'effet, il faut quand même prendre acte que nous commençons à sentir certaines de nos institutions qui s'invitent au débat.
Mais ça, c'est parce que la CNDH elle-même, je le dis souvent, communique très mal. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de cas que la CNDH défend chaque jour auprès de ces institutions-là. Vous savez, au plan administratif, tous les problèmes que les fonctionnaires ont sont traités par la CNDH. Elle s'auto-saisit sur ces cas-là et elle va jusqu'au niveau des ministères, pour ne pas dire au niveau des ministres, au niveau du gouvernement, pour demander que le droit soit dit pour les fonctionnaires togolais. Mais tous ces cas-là ne sont pas révélés. Et là, c'est encore un rapport un rapport de mission de la CNDH. C'est dans ça qu'on retrouve ce cas de la cour d'appel. Mais imaginez-vous que dans les deux cas, il y a quand même des avocats d'un monsieur qui a fait appel de la décision de la cour d'appel qui vient de condamner un monsieur dont les droits ont été déjà violés et qui devait normalement retrouver d'office sa liberté.
Voyez-vous, notre justice qui avait été beaucoup modernisée, avait été motivée et qui également avait été moralisé, avec tout le respect que je dois à nos honorables juges, quand on voit tous les investissements que l'État fait en leur faveur et qui nous servent encore ces affaires dans lesquelles nous avons du mal à nous retrouver,
c'est tout simplement, ça fait problème. C'est tout simplement que la CNDH n'a pas voulu parler d'abus d'autorité. Parce que là, c'est une autorité qui viole les droits des citoyens. La CNDH n'a pas voulu dire cela. Mais la CNDH estime que désormais, par rapport à l'appel des avocats de ces individus-là, que le droit sera désormais dit. Voilà sa
conclusion. Alors, pour conclure, on a parlé de la CNDH, on a parlé de la Cour suprême, on a parlé de la Cour des comptes. Et hier même, on a assisté à un séminaire avec le conseil économique social, peut-être que le Togo pourra avoir son conseil. Alors, dites-nous, en une minute chacun, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a dans des gens dans ce pays qui sont plus forts, FORTS, qui sont plus puissants que nos institutions? Eric.
Mais ça, quand je lis le rapport de la CNDH, c'est le rapport d'activité justement que je cherchais, mais quand je lis ce rapport, je peux conclure qu'il y a des gens qui font...
Ils sont plus puissants que nos institutions.
Qui font des abus d'autorité.
Et toi, mon conseil?
Non, je ne fais... Comme je le dis et je le réitère, la Cour, la CNDH vient de jouer sa partition.
Oui.
Mais non.
Elle la joue depuis, sauf que c'est doléant.
Alors, sans doute, quand on regarde bien dans les textes, ça doit se débloquer un niveau.
Oui.
Mais il faut justement que ce niveau-là prennent le relais.
Et qui va faire que alors, ça donc, se débloque à ce
alors, niveau. Non, mais il faut connaître les textes. Moi, je n'ai pas la prétention, comme toi, je ne suis pas juriste, malheureusement. Mais quand on lit dans les textes, forcément, à la suite de la CNDH, ça doit se jouer à un niveau pour interpeller, justement, le parquet.
Oui.
Naturellement. Mais ça, parce que la loi même dit, nul n'est au-dessus de la loi.
Oui, la question que alors, ça se pose, est-ce que c'est le parquet qui est au-dessus du procureur général?
Il n'est pas évident. Je crois bien que à partir justement de cette lettre, on va dire, de la CNDH, mais un travail, je l'espère vivement. Je l'espère vivement qu'un travail va se faire.
Il est midi, nous allons devoir nous arrêter là. Et ce que je peux oser comme conclusion, c'est que ayons le courage d'aller à l'école de nos institutions. Sachons quelles sont ces institutions, comment elles fonctionnent Et ainsi, nous pourrons dire là où se trouvent les goulots d'étranglement et ce que nous pouvons faire petitement pour débloquer ça, nous le ferons. Pour le moment, nos universitaires nous forment. Hein, docteur Mouzou, docteur Karabou, hein, pour le moment, c'est aller à la pédagogie hybride, la formation d'excellence. Absolument. Et quand nous serons sortis des universités, que l'État nous emploie, que nous jouions nos partitions, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Merci, il est 12h. Nous allons marquer une petite pause, le temps que la technique adresse un clin d'œil à nos partenaires qui soutiennent Canal FM, le club La Presse. Puis nous rebondissons avec vous, sans tabou, hein. Vous composez le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Vous pouvez interpeller nos deux invités, Dr Karabou, Dr Mouzou, pour ce qui est de la pédagogie hybride, ou bien les confrères pour les articles que nous avons commentés ici.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous revenons ici au studio, mais une indulgence. Avant les auditeurs, je voudrais quand même que Dr Mouzou, Dr Karabou, vous nous en disiez un peu plus sur les filières ou bien les offres de formation sur lesquelles la pédagogie hybride est vraiment la plus active.
Ok, merci beaucoup. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la pédagogie hybride, c'est à tous les niveaux, dans toutes les offres de formation globalement. Et là, nous allons quand même vous permettre qu'on présente un peu quelques offres de formation très rapidement.
Allons-y.
De manière ramassée. Nous avons, en dehors des offres de formation classiques, je veux dire anglais, lettres modernes, droit et tout ça, en dehors de toutes ces formations, je vais juste m'apesantir sur les offres de formation professionnelles. Mm-hmm. Ces offres de formation professionnelles, ce sont des offres de formation où vous faites une partie en termes de cours et l'autre partie, c'est vraiment la pratique. C'est-à-dire les stages sur le terrain qui vous confèrent effectivement des expériences. Et donc, après, à la sortie, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes employé quelque part, soit vous-même, vous vous installez à votre propre compte. Voilà. Donc, nous avons deux niveaux. Nous avons trois niveaux, les licences, les masters, les licences professionnelles, les masters professionnels et les certificats. En termes de licence professionnelle, rapidement, nous avons la licence professionnelle en horticulture, qui se situe à deux niveaux, horticulture maraîchère, horticulture ornementale. Nous avons la licence professionnelle en soins vétérinaires. Bon, je ne vais pas, compte tenu du temps, je ne vais pas détailler le fond, mais je vais juste les donner comme ça. Après, si les auditeurs sont intéressés, ils peuvent toujours vous contacter ou nous contacter directement pour plus, effectivement, d'informations. Nous avons la licence professionnelle en technologie des semences. Nous avons la licence professionnelle en statistique sociale appliquée, donc pour toutes les questions de statistique. Nous avons la licence professionnelle en suivi et évaluation, que nous appelons PSE, PDL. Voilà. Nous avons également la licence professionnelle en contrôle qualité des aliments. Donc, ceux qui vont effectivement s'assurer de la qualité de tout ce qu'on met sur le marché, etc., de tout ce qui est importé. Vous comprenez donc l'importance de cette filière. Vous avez également la licence professionnelle en océanographie appliquée. Vous avez également pour les métiers de la mer, je veux dire. Et donc, vous avez également la licence professionnelle en maintenance industrielle et services. Donc, tout ce qui concerne effectivement les maintenances, les grosses machines et tout ça. Vous avez également la licence professionnelle en informatique qui se situe à deux niveaux. La licence professionnelle en multimédia et Internet et la licence professionnelle en sécurité informatique et cybersécurité. Donc, ça, ce sont des spécialités. Ce sont ces deux spécialités sont à l'intérieur de la licence professionnelle en informatique. Vous avez également la licence professionnelle en langue étrangère impliquée, donc qui allie l'allemand, l'anglais, l'italien, etc. Vous avez la licence professionnelle en travail social. Vous avez également la licence professionnelle, je m'en voudrais de passer là-dessus, puisqu'il est juste en face de moi, qui est le responsable, la licence professionnelle en communication. Et donc là, vous avez des options comme le journalisme, comme la communication digitale, la communication et le langage des signes, par exemple. Vous avez, en termes de master, ça, ce sont des, entre autres, licences que nous avons.
Ouais, et on va aller rapidement, les auditeurs s'impatientent.
Très rapidement, en termes de master, vous avez le master en aménagement du territoire, le master planification, le master agro-business, le master phytopharmacie, master professionnel aquaculture, pêche et transformation des produits halieutiques, et également, vous avez également, comme je l'ai dit, Master Planification Développement. En termes de certificats, vous avez le certificat en topographie, donc qui sont de manière professionnelle, qui vont remplacer un peu les géomètres, qui vont travailler de manière parallèle avec les géomètres. Vous avez également le certificat en action humanitaire et le certificat en psychopédagogie et didactique. Mais c'est ça, vous comprenez donc l'importance de ces filières qui sont assez pointues. Parce que très souvent, là, nous venons de rentrer d'une mission. Nous avons fait une tournée dans toute la région septentrionale pour présenter ces offres de formation, pour préparer les lycéens à leur arrivée à l'université. Et donc, parfois, on nous interpelle un peu sur nos pages Facebook, Twitter, en tout cas, sur nos sites web pour dire pourquoi est-ce que bon, nous ne communiquons pas là-dessus et tout ça, parce que les gens sont allumés, ils n'ont pas l'information. Donc vraiment, nous voudrons vous prier de nous aider à faire effectivement passer.
Merci à vous, docteur Karabou. Je me rends compte que nous ne sommes pas trompés en vous invitant de venir de Kara pour nous parler directement. Premier auditeur en ligne, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Ali.
Ali, oui.
Votre fixe est en dérangement, s'il vous plaît.
Ok.
Bon, nous allons être pratiques. Il y a deux cas, les étudiants et le système de hybride. Bravo, c'est un grand début. Peu importe la forme, le résultat qu'on espère, bon, commençons avec. Bravo à eux. Maintenant, ceux qui ont déjà appris ardemment et sont devenus magistrats, utiles à la population ou bien à l'État, ne veulent pas mettre en pratique leurs connaissances pour le bien-être du Togo, c'est ça qui est dangereux. Le cas que CNDS dénonce là. S'il vous plaît, ce n'est pas une ONG, c'est une institution constitutionnelle du Togo qui parle des autres constitutions. Et ça interpelle directement celui qui incarne aujourd'hui légalement le Togo, Faure Gnassingbé. Il n'a qu'à être pratique dans cette décision. Il développe trop l'impunité au Togo, c'est ça. Tous ceux qui n'exécutent pas les décisions diront directement qu'ils sont de la grande maison, qu'ils sont de unis. Il ne faut pas se faire autre idée. C'est ça qui définit leur attitude là.
Merci. C'est dangereux pour nous. C'est le comportement des faits que la CNDH expose dont nous parlons. Vivement que les institutions et les personnes qui sont en charge fassent en sorte que les Togolais retrouvent confiance dans nos institutions, dans la République. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, l'ami? Allô? Ah, il ne sait pas qu'il est en direct. Ok. En attendant, le prochain auditeur, il est là? Il ou elle, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
C'est Johannes.
Oui, allez-y.
Lorsque j'entends les professeurs détailler ce programme, ça me fait juste penser au début du système LMD, la manière dont ce système a été, les étudiants ont été les cobayes de l'application du début de ce système. Vraiment, ça a été beaucoup de cafouillage et beaucoup d'étudiants ont été pris dans cet engrenage-là. Et je me demande pourquoi, est-ce qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils sont en train d'expérimenter un système sur les étudiants. Est-ce qu'il ne peut pas prendre le temps de peaufiner mieux les choses? Est-ce que les étudiants, les étudiants ne sont pas dans un système? Moi qui vous parle actuellement, je peux dire que je fais partie de la génération qui a été sacrifiée par l'application, le mauvais début du système LMD à l'Université de Lomé. Mm-hmm. Même les professeurs n'arrivaient pas à comprendre ce système-là. Mais ils nous rassuraient seulement. Mais on a vu ce que ça donnait après. Et moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi des professeurs disent non, il y a ceci qui ne va pas, il y a ceci qui ne va pas, et d'autres professeurs se disent non, appliquons ça comme ça, en allant, on va corriger les choses. Mais pendant
merci,
ce temps,
Johannes, l'essentiel, les professeurs vont vous répondre. Il y a d'autres aussi qui attendent en ligne. Bonjour, l'ami. Allô?
Et bonjour.
Oui.
Allô, vous m'entendez?
Oui, oui, je vous reçois.
Oui, bon. Oui, bonjour, monsieur Sass.
Oui, c'est monsieur?
Oui, c'est monsieur Cyril, depuis le Canada, un fidèle auditeur.
Cyril, depuis le Canada.
Oui.
Eh bien, nous écoutons.
Oui, c'est juste pour saluer tout le plateau.
Mm-hmm.
Et en même temps, je ne sais pas si vous me permettez, j'ai une suggestion à vous faire.
Oui.
Si c'est possible, qu'en début d'émission, qu'on puisse vraiment faire une pensée à nos FDS qui sont vraiment au front. Et vraiment, ça serait une bonne chose, à mon avis, à l'en début d'émission, d'avoir une pensée pour eux chaque fois, si c'est possible.
Merci pour cette intention patriotique. Nous nous y associons.
Merci beaucoup. Et je profite pour faire un clin d'œil à commandant Saïfou qui a fait un bon travail au niveau de son poste et ses hommes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci Cyril, hein, et à travers vous, à toute la diaspora togolaise dans ce lointain et si proche pays à la fois. Un autre auditeur? Alors, docteur Mouzou, docteur Karabou, vous avez écouté l'ami Johannes qui a l'impression que vous faites des cobayes dans la pédagogie hybride. Mais en attendant, priorité à ce auditeur qui vient d'entrer en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour, mon cher Jordan.
Oui.
Pardon, Fassou Garou.
Oui.
Oui, je me nomme Benoît Dagoué.
Benoît Dagoué, allez-y.
Ben, vous avez demandé les institutions ou bien les gens qui sont plus forts que des institutions. Et oui, il y en a. Si le président de, comme excellence le président de la République, lui-même, il a vu des gens qui se sont accaparés des biens du Togo et il n'a pas pu les arrêter. C'est comme si ces personnes sont plus fortes que le président de la République. Merci et bonne journée.
Je vous en prie. C'est vrai que cette fameuse phrase que le chef de l'État a prononcée il y a déjà, je crois, une dizaine d'années, les compatriotes ne se privent jamais de le lui rappeler. Un autre auditeur en ligne, bonjour.
Oui, ça c'est bonjour.
Oui.
Comment vous allez? Bonne fête de Pentecôte, Saint-Fingant. Bon, vous avez su quand même dire qu'il y a des puissants qui sont au-dessus de notre institution. C'est vrai, vous avez pu le dire. Mais pourquoi pas qui sont à la tête du chef de l'État? Parce qu'il y a des gens qui contrôlent, qui disent, même si le chef de l'État dit... Voilà, en faisant ceci, ils disent non, monsieur le président, ce que nous avons dit, c'est ce qui va se passer. Voilà ce qui se passe au Togo. Sinon, ce qui se passe, que notre président, lui, il a dit que je ne parle pas beaucoup avec tout ça. Donc, vous avez touché de doigt un point très important. Je vous remercie. Salut, moi, le plateau.
Je vous en prie, l'évangéliste Senghor, un autre auditeur. Eh bien, docteur Karabou, docteur Mouzou, oui. Revenons sur la préoccupation de l'ami Johannes. Il y a l'impression que ce système pédagogie hybride fait plutôt des cobayes. Oui, allez-y, docteur Mouzou.
Oui, bon, vous savez, moi, je vais d'abord dire ceci. Lorsqu'on parle de la pédagogie numérique, le numérique, ce n'est pas seulement à l'université. Et le numérique, c'est dans tous les secteurs. Il faut le reconnaître. Il y a une dynamique mondiale. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle... Vous allez constater que les métiers les mieux payés et les métiers, de plus en plus, là où nous allons, c'est vers des métiers qui exigent l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Donc, ça n'épargne aucun secteur. Donc, le secteur de l'éducation est également obligé de s'adapter. Le COVID-19 nous a permis juste de goûter un peu. Et nous pouvons aujourd'hui nous demander si cette maladie avait continué sur un an et qu'on n'avait pas justement démarré la pédagogie hybride, où est-ce que nous en serions aujourd'hui? Mm-hmm. Est-ce que nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs devraient rester éternellement à la maison jusqu'à ce qu'un jour, on se réveille un matin, démarrer et aller progressivement.
Et ajuster au fur et à mesure, au vu des difficultés.
Hein, les Congolais disent, tout en espérant la viande, il faut manger les feuilles de manioc.
Tout en espérant
la viande, il faut manger les feuilles de manioc.
Merci beaucoup. Je comprends que vous revenez d'une mission en Afrique centrale. Docteur Karabou.
Oui, absolument. Juste pour compléter par rapport à ce que mon collègue a dit.
Oui, le micro.
Juste un ajout, un complément. Il a totalement raison. D'accord. Moi-même qui suis ici, notre ami Johannes, il a évoqué le LMD.
Oui.
J'ai fait le LMD de bout en bout jusqu'à la fin de mon cursus. Et donc, vous voyez, effectivement...
Vous n'avez pas fini, hein?
J'ai pas encore fini, bien entendu. Ça, merci beaucoup, merci pour le rappel. C'est très important. Et donc, j'ai fait le LMD. Effectivement, il y a des difficultés, comme il a si bien soulevé. Mais est-ce qu'on doit attendre parce qu'il y a des difficultés et de ne pas jeter et de ne pas avancer? Non, on avance et on ajuste au fur et à mesure. Et donc, c'est ce dans quoi nous sommes, nous ajustons, nous faisons du mieux que nous pouvons pour offrir
merci, un enseignement. Merci. L'auditeur qui vient d'entrer en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
Comment est-ce que vous allez?
Ah, nous rendons grâce à Dieu, c'est monsieur?
C'est monsieur Love.
Love.
Oui, oui.
Ah, ok. Allez-y.
Depuis fort longtemps, j'ai l'habitude de me poser une seule question. Est-ce que nos institutions sont indépendantes? Est-ce que l'État togolais est indépendant? Parce que nous remarquons qu'il y a des personnalités qui sont fortes plus que nos institutions. Nous avons remarqué ça pendant très longtemps et dans plusieurs jugements. Merci.
Je vous en prie, juste rappeler à nous tous que la souveraineté du peuple togolais nous revient à nous, citoyens togolais. C'est à nous, autant que nous sommes. Monchoso, Eric, Karabou, Mouzou, Thomas, ça c'est les autres. C'est ensemble que nous ferons la force ou la faiblesse de nos institutions. L'auditeur suivant, bonjour. Oui. Allô, c'est ici. Oui, ici.
Vous avez parlé de l'université, je ne vous ai pas trop suivi, comme d'habitude. Vous avez parlé de l'université, des étudiants, LMD, tout ça là. Non?
On a parlé plutôt de la pédagogie numérique hybride.
La pédagogie, oui, avec le LMD, tout le système.
Non, beaucoup plus le cours en distanciel.
En distanciel, oui. Oui. Donc, tout ça, est-ce que ça se fait comme ça en France? Hein? Est-ce que ça se fait ainsi? Et puis le proba qu'on a gardé, comme au Sénégal, il n'y a que les deux pays là qui font le proba, c'est pas normal. Hein? Et les étudiants, eux aussi, ils peinent comme tous les autres, hein, les enseignants, les machins. Ils sont alternés dans une république. Mais les gens ont fagocité, rien ne peut aller. Hein? Même la main de Dieu n'est plus là, quoi. Parce qu'il y a trop d'abus. Il y a trop d'abus en tout. Voilà. Les gens n'ont pas comprendre ça. Que c'est une république. Hein? Ça ne peut pas périr à cause de leur pouvoir et argent. Merci. À cause de l'argent et du pouvoir.
Dites-nous,
tout
un peu doit périr. Bonjour, docteur Karabou. Le système de pédagogie numérique se pratique en France?
Oui, ça se pratique partout dans le monde. Hein. Nous avons accueilli la première mission que nous avons accueillie après l'adoption de la loi de 2017. Nous avons accueilli une équipe de technopédagogues à l'université de Kara. Et à l'époque, nous pensions déjà à comment faire pour implémenter le système progressivement.
Merci. C'est dire que je suis tombé sur un document qui enseigne que le CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, de même que l'agence universitaire de la francophonie exhorte fortement le système universitaire à adapter les systèmes d'enseignement à la technologie.
Même il y a l'UNESCO également qui l'a relevé. Et si vous prenez un de ces rapports, il y a eu ce qu'on a appelé le New Vision for Higher Education 2020-2030, qui recommande, n'est-ce pas, qui encourage toutes les universités à développer la pédagogie numérique. Vous savez que l'Agence universitaire de la francophonie a aujourd'hui des masters à 100% en distanciel. Et il y a, nous avons certains de nos cadres qui ont eu leur master là, qui sont ici, mais qui étudient donc sur les canaux de l'agence universitaire.
Merci, il est...
Dans le même sens, à l'Université de Cara, nous avons des formations essentiellement et purement en ligne. Autrement dit, SAS, Eric, Dieudo, vous êtes ici à Lomé, vous vous inscrivez à l'Université de Cara, vous suivez vos cours à l'Université de Cara en ligne, et à la fin, vous avez votre diplôme, vous n'avez pas besoin de mettre pied à l'Université de Cara. Nous avons des formations purement en distanciel, pas hybride, purement en distanciel à l'Université de Cara. Vous êtes à Lomé ici, vous suivez votre cours, vous composez en ligne, vous faites les examens en ligne, et après, vous avez votre diplôme.
Merci, vous connaissez mon... Il est mon 12h22.
Mon boulot de recrute.
Nous allons nous arrêter ici, juste faire un ultime tour de table pour recueillir votre conclusion en une minute. Eric, la parole, tu la gardes. Une minute pour ta conclusion.
Merci beaucoup. Ça, mais on a parlé de beaucoup de choses. Et je crois que vivement hein, l'installation du Conseil économique et social. Vous savez que la semaine dernière, il y a eu une rencontre dans cette dynamique de l'opérationnalisation hein, de ce conseil-là.
Non, c'est au Togo. C'est hier.
Oui, hier. Donc, je dis que il faut vraiment qu'on installe ce conseil économique et social parce que ça va régler beaucoup de problèmes dans ce pays. Nous sommes en train de parler de la justice, nous sommes en train de parler de l'environnement, nous sommes en train de parler de l'éducation et tout ça. Je crois qu'avec ce conseil-là, nous pourrons décider de beaucoup de choses et on trouvera des solutions à nos problèmes.
Juste rappeler que le Conseil économique social est prévu dans la Constitution que nous avons adoptée par référendum depuis 1992.
Et il y a un projet de loi qui a été adopté par l'Assemblée nationale et qui a été même validé par le chef de l'État. Et donc, je crois que incessamment, on aura ce
le ministre Christian Trimois en parlait abondamment hier.
C'est un auditeur qui parlait tout à l'heure de l'indépendance et je voudrais rebondir dessus.
Il se posait
la question de savoir si nos institutions
sont réellement indépendantes.
Vous l'avez dit et je le pense aussi, il nous revient à nous tous de travailler en sorte à assurer l'indépendance réelle de nos institutions. Nos institutions, depuis un moment, on l'a dit, travaillent à montrer qu'elles sont autant que possible indépendantes et jouent leur partition. Donc, il me semble qu'il revient à chaque institution de travail aussi à ne pas fragiliser le travail des autres institutions. Alors, quand je parlais, par exemple, du niveau supérieur qui devrait, par exemple, travailler à la suite du travail de la CNDH, mais le judiciaire reste un pouvoir en lui-même. Et dans le judiciaire, si on regarde bien, mais peut-être c'est la Cour suprême, peut-être c'est... Donc, il faut que le travail de suivi soit fait. Donc, il faut que le travail de suivi soit fait pour éviter de fragiliser éventuellement le travail fait par la CNDH. Et mais je voudrais finir peut-être en rappelant une phrase qui m'a vraiment marqué au cours de cette émission, tout en attendant la viande.
Il faut manger.
Contentons-nous des feuilles de manioc. Et puis, un carton vert à nos forces de défense et de sécurité.
Comme l'a souhaité depuis le Canada.
Qui se moue le treillis sur le.
Merci. Docteur Mouzou, voilà qui aime.
Donc, merci beaucoup. Je pense qu'il faut fondamentalement que tous nos étudiants sache qu'on ne les a pas abandonnés et que nous travaillons et nous continuerons à travailler pour qu'ils aient un système adéquat, mais en même temps qu'ils puissent les préparer par rapport à pour leur meilleure insertion professionnelle. Le président de l'Université de Cara, le professeur Komla Sanda, à qui je fais un clin d'œil, est très engagé là-dessus et qu'il sache que tous les moyens sont déjà mis en œuvre et beaucoup d'autres moyens seront déployés dans ce sens, mais nous restons, pour ce qui est de la connexion et de la logistique, nous restons totalement orientés, du moins nous restons accrochés à l'État qui, je sais, fera son devoir pour que véritablement on puisse...
Merci, docteur Karabou et Sassinam, Franck.
Oui, merci beaucoup, monsieur Sass. Fondamentalement, comme nous l'avons dit, juste en résumé, le président de l'université de Kara, le professeur Komla Sanda, fait un travail formidable à l'université de Kara. Il se bat.
Comme son collègue de Lomé.
Il se bat.
Absolument.
Absolument, absolument. Il se bat très bien. Et donc, nos petits frères et nos petites sœurs, les étudiants, doivent faire confiance. Nous ne pouvons pas, ce sont nos jeunes frères, ce sont nos jeunes sœurs, ce sont nos enfants, nous ne pouvons rien faire qui va effectivement les pénaliser. Et donc, nous sommes aussi ouverts à tout ce qu'il y a comme contribution pour voir comment est-ce qu'il faut effectivement améliorer beaucoup plus les choses. Nous sommes ouverts, le président de l'université de Kara, le professeur Komla Sanda, est totalement ouvert, toute son équipe est là. On peut nous approcher pour toute suggestion et pour toute contribution. Merci.
Je retiens deux choses essentiellement, c'est que mon Tchosso, Dieudonné, Eric, moi et tous les confrères qui défient le club de la presse, nous pouvons nous inscrire en distanciel à l'université de Kara. Oui. Et faire nos masters, affirmatif, nos certificats, nos doctorats, n'est-ce pas?
Affirmatif.
Alors, c'est pour cela que...
Le master pour le moment, nous n'avons pas encore le doctorat.
Ok, c'est pourquoi nous prenons déjà notre, la préoccupation que vos étudiants ont relevée, à savoir qu'ils puissent disposer de leur ordinateur ou de leur tablette et d'une meilleure connectivité. Et ainsi, la pédagogie numérique ou totale sera un succès, n'est-ce pas?
Absolument.
Eh bien, c'est ce message... que je voudrais que vous rapportiez au professeur Komla Sanda.
Justement, un carton vert à son collègue de Lomé qui a organisé un tournoi de foot dans sa région.
C'était en numérique.
Mais comment en numérique?
Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous au Club La Presse demain, mercredi à 11h. Je voudrais quand même rappeler à nos auditeurs. Nous sommes fiers de vous. C'est vous qui nous donnez vraiment l'énergie de venir ici au Club La Presse pour vous satisfaire au jour le jour. Et ce faisant, nous nous formons nous-mêmes en présentiel ou bien en distanciel.
Yala mali da vera da vera ke se yeah. Écoutez-moi, ma chanson s'adresse à toi, jeune homme. Écoutez-moi, ma chanson s'adresse à toi. Qu'est-ce que tu fais? Inconscience totale. Tu vas voler l'argent de ton papa pour venir faire trop au collège. Tu achètes des montres brillantes à Oussa et Sintaïotel. Au lieu de suivre ton professeur, tu t'es content à transiter des petites notes de casier en casier. Tu vas derrière, tu ne fous rien. En devoir, tu as 5 suivants. Et tu n'es pas content, tu vas mentir à papa, que c'est le professeur qui est contre toi. Amen. Yeah, tu te souviens de ton ami que tu as perdu. Il était dans un village de Bangos, il faisait pareil que toi, mais il est revenu avec une maladie. Avant de riner, il crée, oh oh, une voix dans son corps. Oh, 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 oh. Yeah! Toi, jeune fille, écoutez-moi. Jeune fille, écoutez-moi. Tu as la chance d'être sous-polarisé. Tu n'es pas donné à toutes les filles d'Afrique. Dele do revisa da mangom, dele do crapuza do aundo, dele partie d'un